On dialogue.
Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons avec En Dialogue. Je m'entretiens avec Martin Yel, directeur de la mission auprès du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il nous parle du sanctuaire, deuxième plus vaste et important édifice marial en Amérique du Nord, après celui de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Mon invité nous parlera aussi de la vie de foi en région. Pour finir, il évoquera la lecture du Chemin de Croix de Paul Claudel par Michel Forgue, bien connu des auditeurs de la radio. La lecture, accompagnée à l'orgue par Martin Brossard, aura lieu au Petit Sanctuaire le vendredi saint, soit le 2 avril, à 19h30. Entrée libre ou contribution volontaire. Martin Yel, bonjour, merci de nous accorder cette entrevue.
Bonjour.
Vous êtes donc au sanctuaire depuis longtemps?
Donc, je suis ici comme directeur de la mission depuis le 1er septembre 2019.
Donc, vous êtes assez frais, encore.
Exactement, une année et demie environ.
Mais oui. De pandémie, donc vous avez eu votre baptême du rhume, si j'ose dire, ou du virus.
Oui, c'est ça, c'est pas le baptême par le feu, mais le baptême par le virus.
On y arrivera un peu plus tard, Martin Yel. Vous êtes, on va dire deux, trois mots sur vous d'abord, parce que vous nous intéressez. Vous êtes originaire du centre du Québec, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Petit village entre Trois-Rivières et Victoriaville, Sainte-Eulalie, sur le bord de l'autoroute 20. Puis, donc mes parents demeurent à Nicolet. J'ai toujours été au centre du Québec et de longues années à Victoriaville, surtout. Et donc, mon parcours est assez simple. J'ai vécu 23 ans dans la communauté des Frères du Sacré-Cœur, où je me suis impliqué surtout dans les domaines scolaires, animation pastorale, organisation à but non lucratif. J'ai mis fin à mes engagements en communauté en 2012 et depuis je continue à m'engager en église comme laïc.
Vous êtes également, j'ai appris ça, depuis 2015, je ne sais pas si la biographie est fraîche ou pas, vous êtes doctorant en théologie pratique à l'Université Laval. L'êtes-vous encore?
Et toujours, je suis à l'étape ardue de la rédaction de thèse.
Quelle horreur.
Une chose très difficile à faire alors qu'on est dans une vie active à 120%. Alors, j'y arriverai.
on va faire une neuvaine pour vous, Martin Yel. Le sujet de votre thèse m'intéresse, il est long comme un accordéon.
Oui.
C'est le renouvellement des pratiques d'évangélisation en contexte missionnaire à partir de l'écoute du phénomène d'émergence de la foi chez les jeunes. C'est très long pour dire quoi?
C'est pour dire que un projet de recherche part toujours d'un problème. Donc le problème que je vis et que j'ai vécu tout au long de mes années en travail pastoral auprès des jeunes en évangélisation, c'était de me poser la question, en fait, est-ce que avec tous ces déploiements d'énergie et d'activité, on peut permettre aux jeunes d'entrer dans une expérience de la foi? Cette question-là m'a permis de pour pouvoir lui trouver réponse, d'utiliser la méthode phénoménologique en interviewant quelques jeunes qui m'ont raconté, entre autres, à partir de leur expérience et de leur connaissance, qu'est-ce qui a contribué à l'émergence de la foi chrétienne dans leur vie. Et puis, à partir de ça, c'est de voir comment est-ce que ça peut interroger nos pratiques d'évangélisation dans le contexte actuel. Parce qu'on est dans un contexte missionnaire, on n'est plus dans un contexte de, entre guillemets, de chrétienté.
Vous dépendez de Trois-Rivières, j'imagine, non? Et Trois-Rivières qui est connu, le diocèse de Trois-Rivières, connu pour son tournant missionnaire. Vous n'êtes pas étranger à tout ça, vous?
Exactement. C'est sûr que je suis un très nouveau trifluvien. J'ai été plutôt un Nicolétain pendant de nombreuses années, mais on est dans la même dynamique du tournant missionnaire. C'est important de faire un tournant peut-être à 180 degrés, mais pas 360, parce qu'on va retourner à la même endroit.
Ça va redevenir un tour. C'est pas un tournant, mais ça va être un tourment missionnaire.
Oui, Exactement.
Martin Yel, je rappelle, vous êtes directeur de la mission auprès du sanctuaire Notre-Dame du Cap. Alors, j'ai appris un truc, c'est que c'est le deuxième sanctuaire marial en Amérique du Nord après celui de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, qui est gigantesque. Je vous interview aussi à titre de guide touristique un petit peu. Il y a des gens qui nous écoutent qui sont sans doute jamais allés au sanctuaire Notre-Dame du Cap. C'est un nom connu comme Barabbas dans la Passion. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce sanctuaire?
En fait, il y a beaucoup de choses que les gens peut-être savent par, on pourrait dire par la bande, mais il y a plein d'informations qui concernent le sanctuaire ici, qui remontent à l'époque de la Nouvelle-France. C'est sûr que le sanctuaire comme tel, comme lieu de pèlerinage, est né en 1888 du vœu du curé Luc Desilets, qui était curé de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine, ici au Cap-la-Madeleine. Et les événements qui ont précédé, je dirais, l'arrivée de ce sanctuaire, c'est tout d'abord une dévotion à Notre-Dame du Rosaire, qui est présente ici depuis 1694. Oh. Donc, le premier curé en poste ici, le curé Paul Vachon, qui est inhumé sous notre petite chapelle votive encore aujourd'hui, a fondé une confrérie du Rosaire ici en 1694. Donc, c'était une dévotion déjà présente. Et on a encore le certificat officiel de cette époque dans nos archives. C'est assez touchant de voir. Et donc, cette paroisse, petite paroisse, a vécu ses aléas de difficultés. Et lorsque Luc Desilets est arrivé comme curé ici, à la deuxième moitié du 19e siècle, il a travaillé fort pour renouveler l'expérience de foi des personnes ici. Et en 1878, il a obtenu l'autorisation de l'évêque Monseigneur Laflèche, à l'époque, évêque de Trois-Rivières, de construire une nouvelle église plus grande, parce que la petite église de la paroisse a été inaugurée en 1720, donc ça fait 301 ans cette année, et qui est toujours en place aujourd'hui. Donc, on a construit une nouvelle église, et pour pouvoir construire cette église, on devait aller chercher des pierres sur la rive sud du Saint-Laurent, à Saint-Angèle-de-Laval, et on voulait profiter de la pratique courante du pont de glace l'hiver. Donc, c'était pratique courante de traverser le fleuve sur un pont de glace.
Justement, il n'y a pas un miracle lié au pont de glace à Notre-Dame-du-Cap?
C'est assez étonnant. Est-ce un prodige? Est-ce anecdotique? On ne sait pas trop, mais ça a suscité les passions. En 1878, donc, on veut transporter les pierres, mais l'hiver 78-79 est particulièrement doux et il n'y a pas de pont de glace qui se forme cet hiver. Et puis là, rendu au début du mois de mars, à peu près à ce temps-ci, là, mais là, on est rendu plus loin dans le mois de mars, mais il n'y avait toujours pas de pont de glace.
Et il n'y avait pas de pont La Violette non plus, évidemment.
Non, il n'y avait rien du tout. Alors, le curé Desilets dit, bon, ben mes chers paroissiens, prions pour que ils puissent avoir un pont de glace cette année, qu'on puisse enfin pouvoir commencer à construire notre nouvelle église. Et puis, est arrivé un événement, c'est que des glaces se sont détachées des pourtours du lac Saint-Pierre et sur le pourtour des Grèves, et se sont amoncellées à peu près là où se trouve le sanctuaire aujourd'hui. Donc, il y a eu un amoncellement de plaques de glace sur la largeur du fleuve. C'était pas un pont très bien formé. Mais là, avec le vicaire et tous les paroissiens, ils se sont dit, on va en faire un pont. Donc, ils ont à leur propre péril, manœuvré sur ces eaux et ces glaces dangereuses pour consolider, arroser et faire en sorte que ça fasse un chemin qui puisse traverser le fleuve. Et c'est comme ça qu'ils ont pu traverser pendant 9 jours des cargaisons de pierres depuis la rive sud jusque sur le site ici, qui a permis de construire les fondements de l'église jusqu'à la hauteur des fenêtres environ.
Martin Yel, on appelle ce pont le pont des chapelets. Est-ce que les paroissiens avaient le chapelet en main en train de réciter Notre Père et Ave Maria?
C'était en fait, le curé des Islets a dit, vous allez prier le rosaire et prier Notre-Dame du Rosaire pour que ce pont de glace puisse se produire. Donc, il y avait le chapelet en famille et même on a des lettres assez comiques disant que le curé demande à l'évêque que les hommes puissent s'abstenir de participer à la messe pour pouvoir continuer à transporter les pierres. Et puis, donc, ça a été tout un effort collectif. Et le curé a dit, si on réussit à faire ça, ben moi, je vais consacrer l'ancienne église de 1720 pour en faire un sanctuaire à Notre-Dame du Rosaire.
Vous parlez de Luc Desilets. Je reviens à Luc Desilets, le prêtre, et oui. Le chapelet. C'est pas lui qui a vu un cochon qui voyait le cochon au pied de l'autel en train de mâchouiller un chapelet. Est-ce que c'est lié ou c'est une autre histoire, ça?
Oui, donc ça, c'est au début, lorsqu'il est arrivé dans la paroisse, c'était une paroisse assez... c'était des coureurs des bois, puis des gens qui travaillaient en forêt ici, puis c'était des gens assez pauvres, petit village, et puis il n'y avait pas beaucoup de pratiques religieuses, et puis un jour il est rentré dans l'église, et c'est l'histoire qui raconte ça, l'anecdote, la légende, fait en sorte qu'il aurait vu un cochon qui était entré dans l'église et qui mâchouillait un chapelet, puis là il s'est dit, les chrétiens abandonnent le chapelet, voici que les pourceaux s'en emparent. Alors, il faut renouveler la dévotion au rosaire et puis il a travaillé fort dans sa prédication pour relancer sa paroisse.
Un peu de temps après, il y a aussi quelqu'un, le Frédéric Janson, oui. qui est quand même la figure la plus connue, j'imagine, oui. liée à Notre-Dame du Cap.
On le considère comme le fondateur, en fait.
C'est le fondateur, hein, n'est-ce pas? Il y a eu un autre miracle que lui et deux autres hommes ont été témoins d'une statue qui s'est mise à regarder, à faire vibrer les yeux. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, l'événement du prodige des yeux. Donc, en 1879, la chapelle, le vœu du curé des Islets de conserver l'ancienne église se concrétise. Donc, ça a pris 9 ans. Jusqu'en 1888. Donc, on a restauré la petite église, lui redonné un petit peu de cachet. Et en 1888, au mois de juin, 22 juin, on inaugure le sanctuaire Notre-Dame du Cap. Et c'est le père Frédéric Janson qui est arrivé quelques semaines avant l'ouverture de ce sanctuaire, qui était un grand prédicateur. Et qu'on pourrait faire 15 émissions sur le père Frédéric.
Donc, l'invitation est lancée.
Oui, donc le Frédéric Janson était présent lors de l'inauguration du sanctuaire. Donc, ce qui a eu lieu durant cette inauguration, il y a eu de grandes festivités dans la journée, des célébrations liturgiques, et il y avait une statue de l'Immaculée Conception qui avait été donnée par un paroissien en 1854, l'année du dogme de l'Immaculée Conception. Oui. C'était une statue qui provenait des ateliers catholiques. De Montréal, des gens qui faisaient des statuaires en plâtre, et qui ensuite ont continué jusqu'à avec Carlier, Petrucci et compagnie. Donc, cette statue était sur l'autel latéral où se trouvait l'autel de la confrérie du Rosaire. Et donc, on a décidé de déplacer cette statue pour la mettre en évidence devant l'église, derrière le maître-autel. Donc, le soir, cette statue a été déplacée, mise après la messe, donc après sur cet autel. Et le soir venu de cette inauguration, un paroissien handicapé, Pierre Lacroix, va rencontrer le curé des Islets et le père Frédéric pour demander qu'on prie pour lui. Et donc, les trois se rendent dans la petite église pour prier. Et durant ce temps de prière, le soleil frappait par la fenêtre de l'arrière, donc le maître autel était tout illuminé, et donc les trois disent avoir vu le visage de la statue je dirais, prendre vie d'une certaine façon, où le regard de Marie, qui a les yeux baissés, naturellement, elle avait les yeux ouverts et regardait les gens qui étaient là. Ils disent que ce prodige aurait duré une dizaine de minutes. Donc, on a des lettres d'attestation qu'ils ont écrites l'un et l'autre pour dire qu'ils ont vécu cette expérience. Est-ce que d'autres personnes l'auraient vu sur place ou c'est une expérience intérieure? Ben, c'est tout ça qu'on reste à voir.
Martin Yel, je rappelle, vous êtes directeur de la mission auprès du sanctuaire Notre-Dame du Cap. On peut taper l'adresse sanctuaire-ndc.ca pour savoir tout ce qui s'y passe. Deux petits mots peut-être sur, je pense que vous avez en plus un chemin de croix assez intéressant et des jardins qui sont très jolis.
Oui, donc ça c'est quelque chose de merveilleux. Donc on a ici sur le site, le sanctuaire a été confié aux Oblats de Marie Immaculée en 1902. Sur la recommandation du père Frédéric. Et dès leur arrivée, les Oblats ont commencé à aménager le site. Donc, il y a eu un aménagement des terrains. Et on a fait de grandes souscriptions quand on prend la revue Notre-Dame du Cap, qu'on appelait à l'époque les Annales du Très-Saint-Rosaire. On voit des souscriptions pour la création des monuments du Rosaire. Donc, on a des monuments de fonte couleur bronze sur des socles de pierre qui représentent les 15 mystères du rosaire et qui représentent également donc mystère joyeux, douloureux et joyeux, et a été ajouté les mystères lumineux, c'est des céramiques de l'artiste montréalais Charles Succan qui ont été ajoutés par la suite. On a également le chemin de croix qui est magnifique. Donc le père Frédéric a fait a déterminé l'endroit des stations du chemin de croix à partir de la Via Dolorosa de Jérusalem. Donc il a fait ça à l'échelle.
Il y avait vécu, je pense, non?
Ah oui, il a été responsable des pèlerinages en Terre Sainte, et on pourrait raconter beaucoup de choses là-dessus.
Ça, c'est dans les 15 entrevues que je vais vous faire bientôt.
Voilà. Et c'est ça, donc le chemin de croix qui était d'abord de simples petites croix de bois. Ensuite, il y a eu des monuments de bronze qui ont été installés sur des socles de béton. Et dans les années 70, lors de la fermeture d'un autre petit sanctuaire qui était sur la rive sud du Saint-Laurent à Saint-Célestin, il y avait ce qu'on appelait la Tour des Martyrs, où il y avait un petit sanctuaire où on faisait la promotion des reliques des saints. Et il y avait un chemin de croix, justement, des ateliers vos couleurs en fonte bronzée également. Donc, quand ce sanctuaire a fermé, ces monuments ont été donnés ici au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. Donc, on a une autre série de sculptures là. Et également, une reproduction du Saint-Sépulcre, qui était la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Donc, une reproduction en pierre et un calvaire magnifique. De l'artiste Clovis de Grelle, un architecte paysagiste qui avait travaillé au parc La Fontaine à Montréal.
Très bien.
C'est merveilleux.
Martin Yel, je vous engage comme un guide touristique plutôt que directeur de la mission auprès du sanctuaire Notre-Dame-des-Caps. On va arriver au chemin de croix lu par Michel Forgue, le chemin de croix de Paul Claudel, qui aura lieu donc ce vendredi saint, le 2 avril à 19h30, entrée libre ou contribution volontaire. Mais juste avant, quelques petits mots, on avait parlé, brièvement fait allusion à ça au début de l'entretien. Après un an de COVID, vous, ça fait un an et demi que vous êtes là au sanctuaire.
Oui.
Comment est-ce que la vie de foi en région, comment s'est-elle ressentie de cette crise sanitaire terrible?
Ben, évidemment, c'est clair qu'on est un lieu un peu différent d'une église paroissiale ou de la réalité paroissiale, parce qu'on n'est pas une paroisse et qu'il y a des gens d'un peu partout qui viennent nous visiter. Donc cette année a été vécue de bien des façons. Et je pense que ça a suivi le calendrier du gouvernement avec les ouvertures, fermetures, confinements et déconfinements. Donc, il y a eu des périodes, la première partie de la pandémie qui a été très triste, où tout était fermé complètement, où on a dû faire des mises à pied importantes, dans le personnel.
Mais pour vous, ça a été l'occasion d'avancer dans votre doctorat, certainement, non?
Même pas.
Même pas. Ah bon, ben, c'est raté.
Donc, nous, on a eu à redéployer de nouvelles façons de rejoindre les gens. Donc, pour nous, ça a été une façon d'investir les médias sociaux et notre chaîne YouTube d'une façon particulière. On a créé des contenus pour essayer de continuer d'accompagner les gens. Et on avait la messe qui a été diffusée tous les jours depuis le début de la pandémie par YouTube. Donc, les Oblats ont continué à assumer ce ministère. Beaucoup de ministères aussi d'écoute, des gens qui téléphonent, qui voulaient parler à un prêtre. Donc ça, on avait la chance d'avoir une communauté de religieux ici qui pouvaient exercer ce ministère d'écoute. Et puis, évidemment, ça a été le sanctuaire. On avait la chance peut-être d'avoir quand même la possibilité d'avoir des infrastructures assez grandes, d'avoir du personnel, d'avoir une certaine logistique qui nous a permis, dès qu'on a pu ouvrir un petit peu, de pouvoir rendre les lieux disponibles et accessibles.
Alors justement, Martin Yel, le temps presse et je vous presse aussi, parce que sinon, on n'aura pas de publicité, on n'aura pas d'argent à la radio voilà. Bref, venons-en donc au chemin de croix de Paul Claudel, qui va être récité par Michel Forgue, accompagné à l'orgue par Martin Brossard, le vendredi saint, donc le 2 avril à 19h30, entrée libre aux contributions volontaires, c'est au petit sanctuaire.
Non, un petit changement à l'horaire, ce sera la basilique, en fait.
À la basilique. Hein. Est-ce que cela fait partie des activités normales du sanctuaire Notre-Dame du Cap? Parce que Michel Forgue est quelqu'un qui est assez connu, très connu déjà des auditeurs de Radio VM. Il en est à sa troisième ou quatrième collaboration avec vous, non?
Oui, donc on avait fait une petite collaboration ensemble l'année dernière lors de la fête de Sainte-Cécile. On a fait une expérience, donc une lecture du Cantique de François, et on avait une petite équipe de musiciens, donc saxophone, orgue, guitare. On a fait une expérience, on s'est lancé. Donc, on s'est lancé pour faire une petite expérience musicale et spirituelle.
Et cette fois-ci?
Et
cette fois-ci, j'ai l'impression que vous avez une amitié qui se bâtit avec Michel Forgue.
C'est quelqu'un qui... On a continué lors de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Il a fait le Rosaire des Joies de
Marie-Noël.
Marie-Noël, exactement, au Petit Sanctuaire. Et puis, c'est là qu'il y a eu une collaboration avec notre organiste titulaire, Martin Brossard, qui a fait des interludes musicales entre les lectures. Et ça a été d'un effet vraiment intéressant. Et M. Forgue s'est proposé, dit « Je serais prêt à lire le chemin de croix de selon Paul Claudel au moment qui vous conviendra. » Et on disait « Ça serait une très belle activité pour le Vendredi Saint en soirée. » Donc, traditionnellement, il y a toujours ce qu'on appelle l'office du Vendredi Saint à 3h l'après-midi. Mm-hmm. Et souvent, en soirée, ça peut permettre justement de faire quelque chose d'un peu différent, de paraliturgique, artistique, qui ouvre une dimension nouvelle. Et donc, M. Forgue était très enthousiaste de pouvoir faire cette lecture. Et on a continué cette collaboration avec notre organiste titulaire qui va improviser des passages pour mettre en musique et continuer la réflexion au cours des stations.
Il y a 14 stations entre chacune, donc il y aura un interlude à l'orgue.
Exactement.
Martin Yel, il nous reste à peu près 3 minutes. Le temps passe très vite en bonne compagnie. Avec la réouverture progressive des lieux de culte, cette lecture du chemin de croix de Paul Claudel par Michel Forgue, le vendredi 2 avril à 19h30, au sanctuaire, en fait, au grand sanctuaire, à la basilique, non, c'est ça?
Exactement.
À la basilique. Est-ce qu'il y a une limite pour le public? Parce que les gens qui vont nous écouter vont s'arracher les cheveux et vont vouloir arriver en foule.
On apprend aujourd'hui qu'on va pouvoir accueillir 250 personnes, donc on est très heureux de ça.
Je comprends. Donc, entrée libre aux contributions volontaires. Est-ce que ce concept de... J'aime pas le mot spectacle. Chemin de croix n'est pas un spectacle, mais de réanimation, de résurrection de ce texte de Paul Claudel, ça s'inscrit dans une dynamique plus vaste du sanctuaire Notre-Dame du Cap, d'aller chercher d'autres gens par la poésie, par la musique?
Exactement. Donc ça, c'est important pour nous. Donc ce développement de, on peut rejoindre les cordes spirituelles des gens par toutes sortes de médiations. Et je crois que cette médiation poétique, artistique est très appréciée. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer davantage.
À part ça, est-ce qu'il y a beaucoup de concerts? Il y a une chorale? Il y a quand même beaucoup de choses? Est-ce qu'il y a des expositions aussi?
On a été mis un peu à l'arrêt durant cette année, mais durant cet été, on relance la machine. On aura notre série qui a plus de 50 ans quand même, des concerts estivales d'orgue. Donc, tous les dimanches après-midi à 2h à partir de la fin juin, on aura le concert d'orgue à la Basilique. Donc ça, on continue ça. On aura un symposium des arts durant l'été. Donc on veut vraiment ouvrir à ces dimensions-là. On a eu une très belle expérience aussi avec Anne-Marie Dubois durant la neuvaine de l'Assomption. On a fait la présentation des pièces mariales de Franz Liszt. On essaie d'ouvrir à toutes ces dimensions-là.
Martin Yel, est-ce qu'on a fait le tour de la question ou est-ce qu'en une minute, avez-vous une phrase historique à prononcer avant la fin définitive ou pas?
Je suis dans une très grande espérance en ce temps de Pâques, de résurrection. Je souhaite au maximum qu'on puisse retrouver ces lieux de rencontre. C'est ça qui est ma plus grande espérance. Retour à la normale, je n'aime pas ce terme parce qu'est-ce que la normalité? On a à apprendre à vivre autrement. Ça va être notre thème cette année de notre neuvaine de l'Assomption. Vivre autrement. Et accepter ce qui nous est présenté et le vivre dans la rencontre avec le tout venant.
Martin Yel, directeur de la mission auprès du Sanctuaire Notre-Dame du Cap, www.sanctuaire-ndc.ca. Également, je souligne à nouveau cette soirée autour du chemin de croix de Paul Claudel, récité par Michel Forgue, bien connu des auditeurs de Radio VM. La lecture sera accompagnée à l'orgue par Martin Brossard. Tout ça aura lieu à la Basilique, donc le vendredi saint, 2 avril à 19h30, Notre-Dame du Cap. Entrée libre ou contribution volontaire. Martin Yel, merci infiniment.
Oui, et vous pourrez suivre l'événement sur Facebook et YouTube. En direct.
Merveilleux. Voilà, nous sommes rendus à la fin de l'émission. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci. Entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.